Donc, après ce repas festif, dont nous vous avons tiré malheureusement à regret, mais nous allons être heureux parce que nous allons entendre la suite des communications. Et nous allons commencer donc cet après-midi avec Quentin Le Pluart, qui va nous parler de jeux de rôle, de juristes et de tant de choses. Donc, à toi, Quentin.
Merci beaucoup. D'emblée, je vous prie de bien vouloir m'excuser si ma voix empêchait certains rôlistes somnolents, pour reprendre une expression de ce matin, de digérer après ce copieux repas. Comme je me suis rendu compte qu'il y avait quelques non-juristes dans la salle, parmi nous, j'essaierai de rendre mon propos le moins indigeste possible. Mais si, malgré mes efforts, il y avait quelques notions de droit qui vous paraissaient obscures ou qui vous échappaient, n'hésitez pas à m'interrompre et à me le dire. Je voudrais essayer de répondre avec vous à deux questions concernant le droit et le jeu. La première, c'est de savoir d'où provient la norme qui constitue la règle du jeu de rôle. Quelle est sa source et surtout d'où elle tire sa légitimité? La seconde question concernera la place et le but accordés à cette règle. Savoir si elle nécessite un engagement et si elle peut susciter des résistances. Si l'on se contentera ici de l'étude de la règle du jeu de rôle sur table en particulier, cette réflexion pourrait cependant être menée sur bien d'autres types de jeux, jeux que l'on appelle justement des jeux de société, et qui nécessitent, comme toute réunion d'hommes ayant même origine, mêmes usages, même loi, selon la définition du dictionnaire Littré, des règles d'organisation sociale. Donc on a évoqué les jeux à MJ tournant, voire les jeux sans MJ. C'est vrai que j'y avais pas pensé quand j'ai préparé mon intervention, mon expérience se limitant aux jeux de rôle classiques avec un MJ. Mais dans ce cas, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de règles de droit, enfin de règles du jeu en tout cas. Il y a toujours une règle et une autorité qui l'incarne. Ce sera soit chacun des joueurs, chacun son tour, soit tous les joueurs collectivement. Comme dans une réelle démocratie, en fait, à l'athénienne et pas le succédané qu'on connaît actuellement. Voilà. La règle du jeu de rôle notamment, est-elle une règle de droit? Elle en a tous les aspects a priori. Seul lui manque son origine étatique, sa provenance de l'État. Quoique cela ne soit pas l'une des caractéristiques fondamentales de la règle de droit, au point qu'elle soit parfois délaissée par les auteurs. C'est le cas, par exemple, de la coutume, qui ne provient en aucun cas de l'État ou du législateur. Il suffit seulement que la règle, pour qu'elle soit juridique, qu'elle émane d'une autorité investie du pouvoir de créer et d'appliquer la norme, qui soit légitime pour ce faire. Ce qui est le cas, en l'occurrence, en la personne du maître de jeu, avec les déclinaisons pour les MJ tournants et pour les jeux sans MJ. De même, il s'agit bien d'une prescription générale, faite à personne indéterminée, en tout cas non individualisée, du type « les joueurs doivent se conformer aux directives du maître de jeu ». Le plus souvent, cette règle est assortie d'une contrainte, d'une sanction, en l'espèce l'exclusion de la partie. La règle du jeu répond donc aux principaux critères retenus pour caractériser la règle de droit. En clair, pour que cette règle devienne juridique, pour qu'elle soit intégrée au droit, il faudrait juste qu'elle soit reconnue, puis sanctionnée par l'État. Le jeu de rôle présente à première vue une vision assez monarchique de la règle du jeu, en tout cas autocratique, puisque reposant sur la volonté d'un seul. Le maître du jeu, qui peut sembler mener les joueurs à sa guise, au gré de ses désirs et de leur propre imagination. Cependant, s'y mêle un peu de théocratie, un pouvoir aux origines divines, en tout cas extérieures aux acteurs du jeu de rôle. En effet, le meneur n'agit pas seul. Il n'agit pas sans être guidé, généralement par un livre de base, un guide dont il ne doit être alors que l'intermédiaire auprès des joueurs. Le pouvoir ne lui appartient donc pas réellement. Il ne l'exerce que par délégation. À ces deux origines de la règle peut aussi être ajouté un brin de stochocratie, à savoir un gouvernement par le hasard, lorsque le destin des joueurs repose sur leur jet de dés. Dans une époque où l'on envisage de tirer au sort un quart des députés, ce mot pourrait vous servir. La stochocratie. Pour beaucoup de juristes, l'intervention d'un tiers impartial pour régler les litiges et rendre à chacun son droit, la création du juge moderne, en d'autres termes, constitue une des premières étapes fondamentales dans l'évolution des systèmes juridiques. Du point de vue occidental, cette étape est suivie par les législations et les codifications. La mise par écrit des règles inventées par le juge est figée ainsi de manière à en préserver la généralité et l'impartialité en toutes circonstances. Le même mouvement peut être observé dans la règle du jeu. Lorsque petit, les joueurs inventent les règles de leur jeu au fur et à mesure que les situations litigieuses se présentent. Puis, on dénote l'intervention d'un arbitre pour enfin accéder à une règle de jeu figée que les joueurs pourront éventuellement adapter à leur guise. Mais qui, pour autant, demeure la référence interprétée par les joueurs sous la houlette éventuelle du maître de jeu. Maintenant que nous avons analysé quelque peu l'origine de la règle du jeu de rôle, il importe de se demander quelle est sa place et surtout sa finalité. Il est donc possible de voir en cette règle du jeu un succès d'années de droit, un ersatz à l'origine monarchique. La soumission volontaire des joueurs à cette règle n'est pourtant pas sans évoquer celle des individus à la règle de droit, avec les engagements qu'elle suppose ou non, et les résistances qu'elle est susceptible d'entraîner. Elle peut également être perçue comme un ersatz de cette règle de droit, voire comme une copie quasi parfaite. Ainsi, s'il convient d'analyser dans une première partie les formes d'engagement et de résistance à l'égard de la règle, qu'elle soit de règle du jeu ou règle de droit, la seconde sera consacrée à l'étude de l'imitation du droit par le jeu de rôle et de sa réciproque. Donc, s'agissant tout d'abord des engagements et des résistances à l'égard de la règle de jeu ou de droit, cette soumission à la règle de la part des joueurs ou des justiciables peut néanmoins demeurer imparfaite. Comme et par ailleurs transgresser la règle de droit, rompant ainsi l'engagement originel, implicite ou non, des joueurs de s'y conformer. Aussi importe-t-il de répondre à ces deux questions que sont tout d'abord s'engage-t-on en jouant et peut-on désobéir au maître de jeu? Donc s'engage-t-on en jouant? Pourquoi se soumettre volontairement à une règle édictée par un autre? La soumission des joueurs au maître de jeu, ou à la règle de jeu en tout cas, présente le même caractère paradoxal que la soumission aux règles du code de la route, par exemple. Pourquoi perdre du temps à s'arrêter au feu rouge, comme nous le faisons tous? Est-ce comme nous l'impose l'article R412-30, si vous voulez le savoir? Seulement pour les 4 points et les 135 euros d'amende encourus en cas de violation? Ou est-ce pour une raison plus insidieuse, moins consciente? Pour les avantages que procure le respect par tous de ces normes qui constituent le code de la route, ou encore pour remplir sa part d'un contrat passé entre tous il y a de cela bien longtemps. Cette conception d'un engagement originel en droit n'est pas inédite. Il existe ainsi plusieurs approches volontaristes, voire fidéistes, donc qui reposent soit sur la volonté, soit sur la fides, en latin la foi, qui mettent justement l'accent sur cet accord préalable nécessaire à l'érection d'une règle de droit et comme tel se rapprochant de la règle du jeu acceptée par les joueurs au préalable. À la limite, il est possible de considérer que cette adhésion volontaire des joueurs à la règle du jeu, émanant de la bouche du maître de jeu, constitue un acte de foi. C'est la vision que développe Emmanuel Lévy en expliquant que le droit d'essence relative est maintenu, subsiste, par ce que d'aucuns ont pu appeler la philosophie de la croyance ou le fidéisme dont je vous ai parlé. C'est la même chose dans la règle du jeu. Pour ces auteurs-là, tout le droit, toute règle ne reposerait que sur une croyance. Donc cet auteur-là nous donne comme exemple les titres de propriété. Lorsque vous achetez un bien immobilier, par exemple une maison, le certificat de propriété que va vous remettre l'ancien propriétaire, le vendeur, va montrer qui était l'ancien propriétaire, celui à qui il a acheté le titre. Mais pour prouver... Il est impossible de prouver qu'on a acquis du véritable propriétaire, puisqu'il faudrait alors remonter dans la chaîne des transmissions de propriété, et ce, à l'infini, pour pouvoir établir un droit parfaitement sûr. On est bien dans des rapports entre individus, qu'ils soient juridiques ou ludiques, qui constituent des rapports de confiance légitime. Et c'est cela qui crée la règle, qu'elle soit règle de droit ou règle de jeu. Pour d'autres, cependant, la soumission à la règle découle d'un contrat originel, passé entre tous les individus qui accepteraient de sacrifier un peu de leur liberté, soit pour garantir un minimum de sécurité, c'est la thèse de Thomas Hobbes, soit pour en gagner davantage que celles qu'ils ont sacrifiées. Ce sont toutes les thèses utilitaristes, et notamment celle de Bentham, leur sacrifice étant à leur vue comme utile. J'ai entendu avec plaisir hier et ce matin l'expression de contrat social passé entre genres, mais c'est tout à fait ça, on est tout à fait dans la définition rousseauiste du contrat social passé entre les joueurs, justement. Le système normatif, donc le système de droit du jeu, son ensemble cohérent de règles est donc semblable au système juridique. Ceci étant valable pour tous les jeux de rôle ou de société. Aussi, n'oubliez jamais quand vous jouez que ce jeu obéit aux mêmes règles, aux mêmes lois que les autres jeux. Mais ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut contourner et d'autres qu'on peut violer. Donc se pose ainsi la question, peut-on désobéir au MJ ? Les concepts fondamentaux juridiques du droit à l'insoumission, du droit à la résistance, droits fondamentaux s'il en est, puisque consacrés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, peuvent-ils alors être transposés dans le jeu de rôle ? Existe-t-il une désobéissance ludique comme il existe une désobéissance civile ? Si la désobéissance factuelle et les conséquences qu'elle entraîne peuvent être comparées à l'infraction et à sa répression, la désobéissance ludique est-elle compatible avec l'engagement pris de se conformer aux règles du jeu et aux directives du maître de jeu? En effet, il existe en droit, et surtout il a existé, des lois injustes, ou des jugements injustes, pour prendre la loi dans son sens large. Qu'on pense aux lois prises sous le régime de Vichy, par exemple, ou, pour échapper au point Goodwin, à une loi pas si fantasque que cela, qui interdirait aux femmes de porter un pantalon. Une telle loi qui a été abrogée à Paris il y a de cela moins de 10 ans. Faut-il, comme beaucoup l'ont fait, appliquer et subir ces lois injustes au nom de leur légalité ? Ou au contraire, peut-on s'ériger contre leur tyrannie, comme l'a fait notamment le penseur de la désobéissance civile, H.D. Thoreau, qui, parce qu'il a refusé de payer l'impôt pour une guerre au Mexique, au nom de ses, c'est un Américain, au nom de ses convictions pacifistes, a accepté d'aller en prison et a reproché à ses amis d'avoir payé l'amende pour le sortir de prison par la suite. Donc les exemples de désobéissance civile sont nombreux. On peut citer Gandhi, Socrate, Martin Luther King et Jésus-Christ dans une moindre mesure. Deux arguments sont traditionnellement opposés à un tel droit à l'insurrection et au soulèvement. Le premier, c'est que ce droit à la désobéissance oppose deux ordres que sont la règle idéale, supérieure, au nom de laquelle on pourrait désobéir, et la règle positive, en droit ce qui veut dire issue de la bouche du juge ou du maître de jeu, en l'occurrence. Le risque, ce serait qu'on aboutisse au désordre. Donc ça, ce serait le premier argument. Le second, ce serait que, comme le relève Paul Roubier, qui est un juriste français, la masse des intéressés, le peuple ou les joueurs en l'occurrence, ne soit pas particulièrement qualifiée pour apprécier ce qui est conforme à la justice, pour le cas des règles de droit, ou à l'intérêt des joueurs, de la partie, pour le cas du jeu de rôle. Bien entendu, un joueur mécontent des règles et de leur application par le maître de jeu pourrait utiliser le chantage comme moyen de pression, menacer de quitter la partie s'il n'obtient pas un changement dans les règles. Version ludique de l'utilisation de la grève de la faim pour obtenir un changement de la règle de droit, je ne sais pas. Mais s'il obtenait ce qu'il souhaitait, si le maître de jeu venait à changer ses règles pour aller dans le sens du joueur mécontent, s'en suivrait l'anarchie, et partant, le jeu en perdrait de son intérêt. Que dire par ailleurs des tricheurs ? C'est donc bien cette croyance que les joueurs fondent en l'impartialité du maître de jeu et en la légitimité qu'ils lui ont accordée, qui permet au jeu de rôle d'avancer, et à la société également. Je ne suis pas en train de vous faire l'apologie de la servitude, il ne faut pas appliquer les lois servilement, non, il faut savoir raison garder. Mais voilà les arguments qu'on oppose principalement à un droit à l'insurrection, à l'insoumission, à la résistance. Dès lors, à en croire cela qui s'oppose à cette résistance, à la règle de droit et à la règle de jeu, il ne nous resterait plus d'autre choix que de faire confiance à cela même de qui ces règles émanent. L'avantage dans le jeu de rôle, je vous l'accorde, sera néanmoins la possibilité laissée aux joueurs de quitter la table, alors que nul n'échappe au contrat social. Si ce n'est d'une manière par trop abrupte. Donc il s'agit là peut-être d'une différence, effectivement, entre la règle de droit et la règle du jeu. Mais pour autant, on va voir que ces règles, enfin, le jeu de rôle imite parfois, constitue un miroir du monde juridique. En effet, il peut être intéressant d'étudier la place du jeu de rôle, du rôle même dans le droit français, qui fait la part belle aux personnes juridiques, qu'elles soient physiques ou morales, qui seules ont le privilège d'intervenir sur la scène du droit. L'étymologie romaine de ce mot est à cet égard remarquable. Elle est d'ailleurs partagée par le mot « personnage ». La persona, en latin, désignait le masque que revêtaient les acteurs de théâtre pour pouvoir jouer leur rôle, un masque qui ne laisse passer que la voix. Cette étymologie interroge sur la place de cette médiation du masque, du personnage ou de la personne, et notamment si, pour les règles suprêmes, la loi, le contrat social ou non, il peut ou doit y avoir, comme pour le jeu de rôle, engagement et résistance de la part des joueurs. La pratique du jeu de rôle pourrait alors être considérée comme une pratique utile, pédagogique, dirais-je même, de l'obéissance ou de la désobéissance, en l'occurrence, au droit. Aussi, avant d'envisager la transition du rôliste vers le juriste, du joueur volontairement obéissant aux règles de jeu vers le spécialiste des normes sociales, attardons-nous quelques instants sur ces deux passages assez similaires allant de l'individu à la personne juridique et du joueur au personnage. Donc de l'individu à la personne, du joueur au personnage. On enseigne aux étudiants de première année en droit que celui-ci ne connaît pas les individus. Il ne les connaît pas véritablement. Il ne connaît que les personnes juridiques. C'est leur place dans la société, leur rôle qui l'intéresse, pas leur individualité. Le droit connaît des vendeurs, des acquéreurs, des bailleurs, des locataires, des ascendants au premier degré, des collatéraux au troisième. Il se désintéresse de qui vous êtes personnellement. C'est tout l'intérêt de la personne juridique. Cet avatar que chacun d'entre nous a, plus ou moins consciemment, et possède au niveau de la sphère juridique, dans ce métamonde qu'est le droit, et qui lui permet de passer des contrats, d'être responsable des dommages qu'il cause, par exemple. C'est cette personnalité juridique, cet avatar qui nous représente sur la scène juridique. À cet égard, il est possible de faire un lien entre la feuille du personnage dans le jeu de rôle et l'état civil de la personne juridique. Certes, en apparence, dans un cas, les caractéristiques seront choisies, tandis que dans l'autre, il reposera plus généralement, sauf les exemples qu'on a cités ce matin, davantage sur une réalité, ou physique, ou affective, voilà. En tout cas une réalité. De même, il y aura davantage de contrôle s'agissant de l'état civil que pour la création d'un personnage. Si vous désirez vous appeler Zorglub, Torgal ou Fleur de Marie dans un jeu de rôle, vous le pourrez, alors qu'en droit, vous aurez de grandes chances de voir ces prénoms refusés lorsque vous les présenterez à l'état civil pour appeler vos enfants comme ça, ou si vos parents ont souhaité vous appeler comme ça, voilà, ce sera sûrement refusé. Le cas s'est déjà présenté, d'ailleurs. Les masques que constituent le personnage incarné par le joueur et la personne juridique incarnée par l'individu se ressemblent plus qu'il n'y paraît. Ces deux avatars permettent à la voix de l'individu ou du joueur d'accéder respectivement au monde du droit et à celui du jeu, et surtout de s'y faire entendre. Au vu des intérêts que servent ces avatars, il serait permis de penser que leur modification, la modification de la feuille de personnage ou celle de l'état civil, serait quelque chose de difficile, puisque remettant en cause les fondements mêmes du système normatif des deux mondes. À ce propos, dans l'actualité juridique récente de ces derniers mois, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi J21, si ça vous intéresse, a permis à chaque individu de modifier son prénom et son sexe sur son état civil, dès lors qu'elle démontre qu'il s'agit du sexe sur lequel elle se présente et sous lequel elle est connue, ou du prénom pour lequel elle a un intérêt à changer. L'état des personnes, ce que dans le jargon des juristes signifie l'état civil, les renseignements qui y sont présents, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre sexe, c'est caractéristique, en somme, de la personne juridique, pour employer un vocabulaire propre au jeu de rôle, dont il existe pourtant un principe, un vieux principe d'indisponibilité, d'intangibilité, en d'autres termes, apparaît dès lors comme plus facile à modifier qu'une feuille de personnage une fois la partie débutée. Pourrait apparaître, en tout cas. Cela a été soulevé. Ces deux avatars, à l'étymologie commune, la personne et le personnage, démontrent bien la proximité qu'il y a entre le ludique d'une part et le juridique de l'autre, le jeu et le droit. Premier indice d'une parenté entre le juriste et le rôliste. Ce sera l'objet de la dernière sous-partie. Le monde du jeu de rôle apparaît donc comme une sorte de miroir de l'univers juridique, et vice-versa. Que ce soit à travers ses acteurs, les personnes juridiques et les personnages ludiques, ou à travers l'obéissance et le respect dû aux règles qui régissent ces deux mondes. Soit c'est par habitude que l'on se soumet, que l'on choisit de se soumettre à davantage de règles en s'asseyant autour d'une table et en obéissant aux consignes du maître de jeu, celles autres que celles que la tradition et la société nous imposent, puisque celles-ci ne nous suffisent plus, soit c'est par simple masochisme, sauf à considérer qu'il ne s'agisse là que d'une tendance de la société à aller vers toujours plus de sociabilité, de règles, de normes sociales acceptées par les individus. Selon le mécanisme darwinien de la sélection naturelle, puisque ce sont les individus et les sociétés les plus sociables, les plus aptes à vivre en société, les plus disciplinés, qui auront le plus de chances de survie, le plus de chances de succès, nous sommes tous, en un sens, les fruits d'une sélection d'individus toujours plus sociaux, puisque nous soumettant à davantage de règles, et en théorie, nous sommes plus sociaux que les autres, donc nous avons plus de chances de survie, en soi. Outre l'aspect divertissant du jeu de rôle, il est loisible de lui conférer en tout cas un aspect pédagogique. Et en ce sens, je rejoins tout à fait les deux premières interventions qui ont pris place hier. En effet, il est possible de considérer que l'apprentissage d'un bon respect des règles, d'un sage respect des règles de droit en tout cas, passera naturellement par la pratique du jeu de rôle, puisque similaire à celle-ci. Pratique qui elle-même suppose néanmoins un certain respect des règles par ailleurs, des règles sociales j'entends. L'on n'est pas loin du serpent qui se mord la queue, quant à savoir lequel de ces deux apprentissages a eu lieu le premier. Néanmoins, je m'aperçois que je sors ici de mon domaine d'expertise, peut-être par trop restreint, aussi préférais-je m'arrêter là, avant de proférer des âneries qui feraient bondir, monter au créneau, les spécialistes de psychologie ou de sociologie, puisque je sais qu'il en est dans la salle. Je vous remercie de votre attention.
Pour cette présentation. Y a-t-il des questions dans la salle ?
Comment tu envisages une éventuelle règle de jeu de rôle qui te donnera la permission de violer toutes les autres règles du jeu dans le cadre...
Alors, ça dépend des conceptions qu'on a de la règle. Mais il y a une conception juridique qui dit que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Mais dès lors, enfin, à partir du moment... où on autorise tout, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de règles. Ça veut dire qu'il y a quand même une règle qui permet la totalité de ça. Et en soi, c'est pas choquant en soi. Il y a beaucoup de théoriciens du droit, de philosophes du droit, qui ont dit que dans l'avenir, à partir du moment où l'homme aurait acquis consciemment ou inconsciemment la capacité de respecter les règles de droit, on n'aurait plus besoin de règles, puisqu'on serait capable de se réguler. Ce serait peut-être arrivé à ce niveau-là, faire confiance aux joueurs que de dire que toutes les règles sont permises, mais en soi...
Non, je pensais vraiment à introduire une espèce de joker, quoi, si tu veux, qui te permet d'aller à l'encontre des règles qui sont fixées par le meneur de jeu, qui sont fixées par le jeu lui-même, etc.
Dans une sorte d'amnistie, en fait, qui autorise...
Oui, par exemple,
oui. Ça existe, et pour autant, ça ne remet pas en question la validité du système. On a l'exemple en droit avec la loi d'amnistie, ou même les gens qui se font pas choper, quoi, c'est... Vous pouvez tout à fait violer, franchir un feu rouge, s'il n'y a pas de policier à côté ou de caméra, c'est pas... voilà. Il y a certains qui ont des passe-droits, c'est évident. Mais ça ne remet pas en cause la validité du système. Voilà, je réponds à la question.
Quelle est la place du sophisme dans un système de droit? C'est-à-dire, est-ce qu'un système de droit doit être cohérent, ou est-ce qu'il a le droit d'avoir des règles qui se contredisent en permanence, du genre le mardi on a le droit de mettre des chaussettes rouges, mais si vous avez des chaussettes rouges, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous. Enfin, j'ai des délires. Est-ce qu'il y a une nécessité de cohérence dans un système juridique, ou est-ce que on peut avoir un système juridique anthropique avec des choses qui se contredisent et peu importe?
Mais en fait, ça dépend vraiment de la conception qu'on donne au droit. Il y a certains auteurs qui considèrent, oui, que le droit doit être un ensemble cohérent, mais pour autant, on a eu des exemples de législation. Enfin, je pense à Elio Gabal, qui était un empereur romain, donc qui était, en ce sens, qui incarnait le législateur et le pouvoir exécutif. Il n'y avait pas de séparation des pouvoirs à cette époque-là, et qui a nommé consul son cheval. Enfin, c'est, il n'y a pas forcément de cohérence dans un système juridique. Après, ça dépend des conceptions. Il y a effectivement certains auteurs qui considèrent qu'un système ne sera juridique qu'à partir du moment où il y a une cohérence. Mais
d'autres questions ?
Voilà, j'étais peut-être mal compris, mais à t'entendre, j'ai le sentiment que tu dis que le système juridique est à l'image du monde politique dans lequel on vit. Et la question que j'ai envie de me poser quand tu parles justement de dicter la norme, est-ce que tu as le sentiment que les auteurs de jeux, via leurs règles et surtout leur manière de gérer l'autorité, expriment déjà un point de vue politique fort dans leur jeu?
Ça dépend. À partir du moment où effectivement ils donnent un pouvoir quasi totalitaire à l'un des joueurs qui sera du coup maître de jeu, c'est pas forcément conscient. Mais c'est quand même une organisation sociale et politique de la partie. Après, je dis pas que tous ceux qui font des jeux de rôle avec un MJ, pas surpuissant, mais enfin avec un MJ fort, sont des monstres de totalitarisme. Non. Mais non, pas forcément. Mais bon. Non. Après, c'est l'avantage du jeu, c'est qu'on peut aussi expérimenter des choses qu'on n'aurait pas envie d'expérimenter dans la vraie vie. Quoi. C'est quelque chose d'assez cathartique. Donc, enfin, voilà.
J'ai une question sur l'hypothèse de l'anarchie que tu évoquais dans la première partie, c'est-à-dire le meneur qui se laisse contester, et donc d'un seul coup, ça serait l'anarchie. Alors tu utilises un conditionnel, est-ce que tu as des exemples? Pour ma part, et avec quelques autres, on a documenté plutôt l'inverse, c'est-à-dire des situations où le meneur accepte une objection fondée, bien argumentée, des joueurs disant là-dessus, soit ce que je viens de dire est faux, parce que incohérent par rapport à mes descriptions antérieures, ou incohérent par rapport à la règle, soit la règle est idiote, et donc, de la même façon que la Cour suprême peut, ou le Conseil constitutionnel peut interpréter la Constitution en disant, bon là ça a vraiment vieilli, ou ça ne s'applique pas, on s'autorise donc une entorse, et j'ai plutôt le sentiment que ça renforce la légitimité du meneur, plutôt que de la saper.
Alors tout à fait, mais après j'entendais pas... L'exemple que je n'ai, c'était le joueur qui était mécontent des règles pour sa propre personne, qui agissait uniquement dans son propre intérêt, quasiment comme un tricheur, en fait, et qui menaçait de quitter la table si on ne changeait pas les règles à son avantage. Effectivement, si c'est une réaction coordonnée et intelligente et sage de la part des joueurs, on se rapproche effectivement plus du mouvement de désobéissance civile qui est reconnu et qui a sa légitimité. Mais... ouais, c'était dans ce sens-là. Et j'entendais plutôt l'anarchie, non pas comme un maelstrom, comme un bazar, mais comme une situation de non-pouvoir. L'anarchie, c'est anarchos, c'est quand il n'y a pas de pouvoir, en fait. Quand le maître de jeu accepte de laisser, en fait, sa place d'autorité compétente et légitime au profit d'un autre, enfin, du joueur qui, justement, lui fait ce chantage-là et qui le laisse... soit partager le pouvoir, soit prendre le pouvoir, mais dans ce cas-là, la légitimité du pouvoir disparaît, et en ce sens, c'est dans ce sens-là que l'anarchie intervient. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Dans ta présentation, tu parles du MJ, tu positionnes le MJ au-dessus de la règle?
Pas au-dessus de la règle, non. Enfin... il agit par délégation. En fait, la règle, c'est soit il s'appuie dessus pour légitimer sa, son autorité, en fait. Voilà, c'est la règle qui lui donne son autorité. Soit c'est les joueurs qui lui donnent l'autorité, et dans ces cas-là, il s'appuiera quand même sur la règle, mais d'une manière ou autre. Ça dépend, en fait, de la conception qu'on a du contrat passé entre les joueurs, quoi. Mais non, il n'est pas au-dessus de la... Enfin, au-dessus de la règle du jeu, si c'est la règle... dans le livre de base, par exemple.
Disent clairement, enfin le plus clairement possible pour eux, ce que le meneur a le droit.
Tout à fait. Mais c'est la conception donc théocratique. Là, dans ces cas-là, on sera plus effectivement dans la conception théocratique du pouvoir, qui vient d'une règle supérieure aux gens présents sur la table, dont le maître de jeu ne serait que l'intermédiaire, comme le roi était l'intermédiaire de Dieu sur Terre, enfin le vicaire, on employait cette expression, le vicaire, le remplaçant de Dieu sur Terre, et que dans ces cas-là, il relayait la règle de droit, enfin la règle du jeu, en l'occurrence, auprès des autres joueurs, quoi.
Ça, c'est, c'est une philosophie du droit. Moi, j'étais vachement surpris en travaillant avec des auteurs d'autres pays, notamment un Américain et un Japonais, de voir une vision de la règle, puisque quand on crée un jeu, on crée des règles, bien qui sûr. Était totalement différente de la mienne. Alors, moi, je voyais un peu ça comme un système, un vide juridique, c'est que j'avais pas fait mon boulot. Et eux partaient du principe qu'ils jouaient pas avec des connards, en fait. Et c'était pas tout à fait la même vision, et que il y a d'autres philosophes, enfin culturelles aussi, s'il y avait d'autres philosophies comme ça, grandes philosophies du droit qui existaient. Enfin moi c'est un domaine où j'y connais rien à part celle de si c'est pas interdit et que qu'il y a un trou, c'est que t'as mal fait ton boulot, quoi.
Tout à fait. Bah c'est en fait. On se place dans les deux cas, enfin dans les deux systèmes juridiques qui existent. C'est le système de droit civil, donc comme on a en France, et les systèmes de common law, quand il y a, comme il y a en anglo-saxonne. C'est les deux grandes philosophies. Après, il y a des sous-mouvements dans chaque système, mais peu importe. En système de droit civil, donc comme on a en France, on essaye de faire une loi la plus complète possible, qui n'est pas de vide juridique justement, soit en s'appuyant, en intégrant les coutumes locales ou la jurisprudence des juges, et encore que, alors qu'à l'inverse, les systèmes américains, eux, ils considèrent que la règle de droit, c'est ce que font les juges. Donc s'il y a un nouveau cas qui se présente aux juges, ils vont le juger, et ce cas-là fera précédent pour la fois prochaine. Voilà, donc c'est peut-être, ça se rapproche effectivement peut-être des philosophies, soit nationales ou dans l'élaboration des règles de jeu, tout à fait. Voilà, je ne sais pas si oui, ça répond à la question, quoi.
Oui, ça répond à la question. Après, je caricature beaucoup en disant que
c'est la question. Oui, non, mais enfin, c'est vrai que ouais, en France, on a vraiment une tendance dans la législation, alors qu'à l'inverse, dans les contrats, c'est l'inverse. Enfin, peu importe, à essayer de trouver les lois qui viseraient le plus possible, quitte à interpréter les lois de manière totalement tronquée. Enfin, il y a des vrais contresens qui ont été faits par les juges pour pouvoir appliquer la loi, parce qu'on considère que le juge n'a pas à créer la loi en France, il doit simplement l'appliquer. Mais il y a des vrais contresens qui ont été faits dans l'interprétation de la loi, volontairement, pour pouvoir l'appliquer aux règles de droit. Chose qui se passe pas du tout dans les régimes anglo-saxons, où ils ont juste à faire un revirement de jurisprudence, et dans ces cas-là, ça créera du droit pour la suite, quoi. Même s'il y a un point où il n'y a pas de loi, et ça se créera par la suite. Voilà,
Bonjour. Si j'ai bien compris Si j'ai bien compris le début de ton intervention, tu dis que l'autorité de la règle de jeu de rôle vient, si je peux dire, du haut, c'est-à-dire qu'il y aurait l'auteur, le meneur de jeu, et ça s'appliquerait aux joueurs. Alors moi, comparer les auteurs de jeu à un dieu, ça me va plutôt bien. Or, le meneur de jeu, il est assis tout seul à la table face à 4 ou 5 joueurs, donc je doute qu'il ait le monopole de la violence légitime ou pas. Et du coup, ça me ferait plutôt dire que ce sont les joueurs qui ont le pouvoir et que c'est d'eux que provient la force de la règle plutôt que de l'auteur.
Alors, le monopole de la violence légitime, c'est ce que disait Weber, mais c'est pas ce qui caractérise la règle de droit, en fait. C'est ce qui caractérise plutôt l'État. Et à partir du moment où on considère que toute loi ne vient pas de l'État, On est dans ce cas-là. Et quand, enfin, juste par rapport à l'origine, enfin, divine du droit, c'est pas, enfin, si j'ai pris théocratique, c'est juste pour dire extérieur. Supérieur, c'était, enfin, c'est une image, mais c'est extérieur vraiment à la table, comme, enfin, comme le dieu, enfin, de la des régimes théocratiques est extérieur au monde, qu'il soit juridique ou qu'il soit, enfin, physique, mais voilà. Et, attends, la première partie de la question, c'était. C'est, oui, et la deuxième partie, alors.
C'était de savoir si.
Oui, c'est ça. Enfin, en fait, il y a un double mouvement. Quant à la règle de droit, c'est un mouvement qui vient du bas, ça s'appelle la légitimité. Ça, c'est du droit constitutionnel, enfin, c'est pas trop mon domaine, mais enfin, c'est la légitimité qui vient du peuple et qui donne sa force, justement, aux acteurs qui soient créent la norme ou qui l'appliquent. Et il y a aussi l'autorité, donc qui vient cette fois du haut, c'est que les personnes soient aptes, enfin, aient été désignées soit par le bas, soit par des lois, ce qui se passe en France, enfin, elles sont désignées par les lois, pour les juges en tout cas, pour le pouvoir exécutif, c'est désigné par le peuple, donc c'est par le bas. Mais c'est vraiment ces deux mouvements-là qui sont complémentaires, la légitimité du bas vers le haut et l'autorité du haut vers le bas, quoi. C'est, voilà.
Merci, on va s'arrêter là pour passer à la prochaine.